Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et c'est une des plus grandes aventures humaines que Franck Ferrand nous propose de partager aujourd'hui sur Europe 1. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Vous voyez, j'ai regagné mon poste.
Ça nous fait plaisir.
De nos jours, les mammifères marins et spécialement les baleines ont toute notre sympathie. Et nous sommes conscients de la nécessité de préserver ces espèces en voie de disparition. Certaines d'ailleurs, malheureusement, ont déjà disparu. Mais autrefois, on les voyait d'un autre œil. Et pour nos ancêtres, la chasse à la baleine, on disait du reste la pêche à l'époque, parce qu'on confondait les baleines avec des poissons, cette traque héroïque sur de frêles canots à un harpon à la main constituait un défi sans équivalent véritable.
Et c'est un recueil de textes de la collection Omnibus qui vous a donné l'idée de ce sujet.
Exactement, un recueil inespéré de témoignages de baleiniers du 19e siècle, notamment le journal de bord d'un chirurgien de baleiniers dont je vous lirai tout à l'heure des extraits. Ces 8 textes sont présentés par le navigateur Dominique Lebrun qui est avec nous dans ce studio où sa présence, on peut le dire, fait déjà souffler le vent du large.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
La poursuite et la capture des baleines a été pendant des siècles la plus grande aventure qui se soit présentée aux marins d'Occident. Les Basques et les Vikings au Moyen-Âge, les Normands, les Hollandais à la Renaissance, les Norvégiens, les Américains bien sûr au XIXe siècle ont sans cesse repoussé les limites d'une chasse extrêmement périlleuse. Aux États-Unis, il y a 150 ans, cette traque de la baleine s'est hissée au rang du mythe avec le célèbre roman de Herman Melville, Moby Dick, une sorte de quête océanique dont le Graal prend la forme, vous savez, de cette invincible baleine blanche qu'on poursuit. Une épopée sans âge où le héros, le fameux capitaine Achab, finit par perdre la vie. Depuis la nuit des temps, ce que nous appelons cétacés avec une pointe de tendresse, mais que nos ancêtres voyaient comme autant de monstres marins, avaient habité les contes et les légendes. C'est le Léviathan de la Bible, c'est la baleine qui avale Jonas. Rappelez-vous le livre d'Isaïe. En ce temps-là, le Seigneur, avec son glaive dur, grand et fort, châtiera Léviathan et il immolera la baleine qui est dans la mer. Créature gigantesque, hors de toute proportion, pouvant surgir hors des flots dans un élan d'une puissance incomparable, phénomène vivant lançant dans les airs leur panache sifflant. Nous savons, nous, que c'est la manière de respirer de ces mammifères par leur évent, mais nos aïeux ne le comprenaient pas forcément. « Je la vois, elle souffle !» criait le guetteur à bord des navires. Les baleines donc, de toutes sortes, depuis la baleine bleue géante jusqu'à l'orque ou même au marsouin de beaucoup plus petite taille, depuis le grand rorqual commun jusqu'au cachalot, la proie la plus dangereuse à chasser, ces baleines, comme on les appelait d'une manière générique, ont terrorisé des dizaines de générations de marins et même de riverains. Il fallait donc beaucoup de courage à ceux qui embarquaient à bord des baleiniers. Dans un premier temps, les chasseurs se sont contentés de ramener les baleines vers le rivage à l'aide de filets essentiellement, afin qu'elles échouent simplement sur les grèves où on les dépeçait encore vivantes avant de les débiter. Outre la chair et éventuellement les fanons, les os aussi d'ailleurs étaient utilisés, on recherchait essentiellement deux substances, l'ambre, très rare et donc très chère et qui était utilisée, vous le savez, par les parfumeurs, et puis la graisse, bien sûr, très importante à l'époque des lampes à huile. Chaque animal permettait de produire une quantité importante d'huile d'excellente qualité. Cette chasse par rabattage était appelée « pêche côtière », par la suite, que ce soit au Pays Basque, en Normandie ou en Scandinavie, les baleines ayant cessé de s'approcher trop des côtes qui étaient devenues dangereuses, les baleiniers ont dû se convertir à la pêche hauturière, incomparablement dangereuse. Et cette fois, on approchait des baleines à bord d'un navire maniable, la baleinière, et puis on mettait à l'eau des canots à rames à bord desquels on prenait place, et on mettait 8 ou 10 marins, armés pour certains de harpons, à leurs risques et périls. Selon l'espèce, selon la taille et l'âge du spécimen, il n'était pas rare qu'un canot soit renversé par l'animal harponné, rendu fou par ses blessures, ou fracassé d'un coup de queue. Je ne parle même pas des coups de dents du cachalot doté de la plus redoutable des mâchoires. Les baleines de l'Atlantique se sont adaptées. Vous savez que ce sont des êtres intelligents et adaptatifs. Elles ont fréquenté de plus en plus les mers nordiques, se rapprochant du pôle Nord jusqu'à y trouver une sorte de refuge. Pas pour longtemps, car on est allé les chasser là-bas, bien entendu. Elles ont été coincées comme dans une nasse. Ce sera les l'époque des chasses miraculeuses du XVIIIe siècle au Groenland et au Spitzberg. Alors, les peintres de marine d'autrefois, je pense notamment à Ambroise-Louis Garneret sous la Restauration, ont immortalisé ces scènes qui aujourd'hui nous semblent surtout pittoresques, mais qui, je le redis, glaçaient le sang de nos ancêtres. Songez-vous bien, encore une fois, qu'au XVIe, au XVIIe siècle, la baleine incarnait à elle seule les périls de la mer. Au passage, évidemment, vous comprendrez que les baleinières aient pu être considérées comme les meilleures écoles de marins. On va y revenir sur tout ça, bien entendu. Plus tard, sous l'influence des baleiniers américains, la chasse à la baleine aura tendance à intégrer le progrès technique. Le harpon ne sera plus lancé à la main depuis un canot, mais projeté par un canon depuis le navire lui-même. On fera même des harpons à tête explosive et l'artisanat deviendra industrie. Le duel maritime tournera au massacre jusqu'aux campagnes de la fin du XXe siècle contre la chasse à la baleine, des campagnes orchestrées par le regretté commandant Cousteau. Malgré la survivance meurtrière d'une chasse qui est désormais bien peu justifié économiquement, écrivait-il dans les années 70, les rapports de l'homme et de la baleine ont changé et cette évolution psychologique est désormais irréversible. La baleine n'est plus une proie, un gibier colossal, le plus beau trophée qu'un homme puisse mettre à son actif. Il n'y a plus de mérite à tuer ce géant d'un coup de canon qu'à foudroyer un éléphant d'une balle explosive. En revanche, la baleine est considérée aujourd'hui comme la plus grande et la plus mystérieuse merveille de la nature. C'est le plus formidable aboutissement de la vie animale dans les mers.
Sur Europe 1, des préludes de Franz Liszt interprétés par Herbert von Karajan et le Philharmonique de Berlin. A tout de suite sur Europe 1.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
As-tu connu le père Wisslow?
Hardy, mes fils, vive au galop.
Un capitaine de grandes eaux.
Give me some time to blow the man down.
Quand il commande son vieux bateau.
Hey, Hardy, mes fils, vive au galop.
Et Armand t'empêche au cachalot.
Le père Wisslow, le père Lancelot sur Europe 1, c'est un chant traditionnel.
Vous prenez en cœur, vous.
Oui, tout à fait. Mais je le ferai en antenne si vous le souhaitez. Pour accueillir Dominique Lebrun, qui est votre invité aujourd'hui, journaliste, écrivain, spécialiste du domaine maritime, on l'a dit dans l'intro de l'émission, Les baleiniers, témoignages 1820-1880 est un recueil de textes qu'il présente dans la collection Omnibus.
Bonjour Dominique Lebrun.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous, avec votre barbe de loup de mer. On est tout à fait dans l'esprit. Cette
je l'ai
chanson
gardé spécialement pour ça.
Cette chanson qu'on vient d'entendre, ça fait partie de ces chants de baleiniers. Hein. On peut dire que c'était l'élite des marins de toute l'Europe, les baleiniers.
C'est en tout cas comme ça qu'à la Restauration, à partir de 1816, on a voulu le voir. Après donc une révolution française qui avait mis à mal la discipline dans la marine, un empire qui avait abouti à aboukir pour commencer Trafalgar pour finir.
Trafalgar, c'était pas
il fallait quand même reprendre les choses en main. Et ce que s'était dit le roi de retour, Louis XVIII, c'était que pour faire des vrais marins, il fallait des baleiniers, des solides, des costauds. Et le père Wisslow, dont on entendait tout à l'heure la chanson, lui est arrivé, semble-t-il, sa famille en France sous Louis XVI, première famille d'Américains invitée par le roi pour réapprendre aux Français à traquer la baleine.
Nous verrons tout à l'heure que Louis XVI a joué un rôle non négligeable. Hein. Il tenait beaucoup à cette chasse, on disait pêche à l'époque, à la baleine.
Pêche encore, oui.
Alors, si vous voulez bien, nous allons commencer par remonter un certain nombre de siècles en arrière pour revenir aux origines de cette chasse extraordinaire. Alors, quand je dis aux origines, on ne les connaît pas du reste les origines, car il est probable que dans les temps très reculés de la préhistoire, il y ait eu déjà une utilisation de la baleine. D'ailleurs, on en a quelques vestiges.
Hein. C'est une évidence dans la mesure où dès qu'un animal de ce genre se trouve échoué sur un rivage, c'est d'abord une masse de matière comestible. Ensuite, il y a le solide qui sont les os qui servent à faire des cabanes, des maisons.
Des amulettes aussi,
au passage.
Des amulettes,
bien entendu. S'il s'agit d'un rorqual où il y a de l'ivoire, des dents, donc c'est une matière première absolument fabuleuse.
Et en quantité tellement gigantesque, évidemment. Et puis c'est pratique parce que l'animal s'étant échoué sur le rivage, on n'a même pas besoin d'aller le chasser. Là,
c'est le premier supermarché de l'histoire, finalement. Il suffit de se déplacer. On peut imaginer qu'un cadavre de baleine, c'est une communauté d'une centaine de personnes qui vit pendant un mois ou deux, sans problème.
Alors, les baleines à cette époque, et là on peut dire que les choses ont bien changé, avaient tendance à se promener gentiment dans le golfe de Gascogne, et les premiers qui les aient chassés, dont on ait les traces, alors là, historiques incontestables, ce sont les Basques.
Ce sont les Basques.
Peuple basque tellement étrange, hein, tellement séparé des autres par bien des aspects.
Par la culture, par la langue.
Je n'avais jamais songé à établir un parallèle entre la spécificité du peuple basque et,
oui,
et la chasse à la baleine. Voilà un sujet de réflexion. Revenons tout de suite au sujet. En haut des falaises de la Corniche basque, on trouve encore des postes d'observation où autrefois on guettait l'arrivée des bêtes. Et là, au lieu d'attendre qu'elles viennent s'échouer, on a osé mettre à l'eau des embarcations avec quelques rameurs intrépides et à la tête, à l'étrave, une ou deux personnes particulièrement solides, j'imagine, avec un harpon. Et qui donc, d'un coup, le plus fort possible, réussissait à traverser la masse de l'arc pour toucher le cœur. Et à partir de là, semble-t-il, ça allait assez vite. Si on pouvait tout de suite repiquer, l'hémorragie interne était violente et l'animal, on pouvait le tuer comme ça.
Il fallait savoir où viser, bien entendu. Il ne s'agit pas de lancer ce harpon dans la masse indistincte de la baleine.
C'est la question qui pose l'autre question. Combien de temps ont-ils mis à apprendre à toucher la baleine où il fallait?
On peut espérer pour eux qu'ils aient essayé dans un premier temps sur des animaux échoués, hein, parce que s'ils sont allés essayer ça en pleine mer, c'est inquiétant.
Je soupçonne que le premier qui a pensé a dû faire quelque chose comme ça. Pure spéculation. En tout
Évidemment.
Cas, il fallait oser y aller.
Ouais, c'était tout à fait intrépide.
Intrépide. Alors, la suite de l'histoire, vraisemblablement, c'est que la première traversée de l'Atlantique, ce seront des Basques poursuivant des baleines.
Ils étaient à la suite de baleines et puis ils se retrouvent sur un nouveau continent.
Et voilà, et surtout à Terre-Neuve, où il y avait des morues. C'est bien aussi la morue.
Et là, on verra aussi à quel point les baleiniers sont aussi devenus, mais ça c'est beaucoup plus tard, des morutiers.
Absolument.
On vient à toutes ces transformations dans un instant.
Europe 1. Jalousie, rivalité, haine, les relations frères-sœurs ne correspondent pas toujours à l'image de la fratrie soudée que l'on aimerait avoir. Peut-on être frère ou sœur sans être rivaux? Aujourd'hui, Elena et ses experts vous diront tout dès 14h, alors n'hésitez pas à poser des questions ou à témoigner sur europe1.fr, également au standard d'Europe 1, 39-21, 34 centimes d'euros la minute.
Franck Ferrand sur Europe 1.
La pêche à la baleine, à la pêche à la baleine, disait le père d'une voix courroucée à son fils prospère sous l'armoire allongée. À la pêche à la baleine, à la pêche à la baleine, tu ne veux pas aller, et pourquoi donc?
Et pourquoi donc que j'irai pêcher une bête qui m'a rien fait propos? Voilà pépé, voilà pêcher toi-même puisque ça te plaît. J'aime mieux rester à la maison avec ma pauvre mère et le cousin Gaston.
À la pêche, à la baleine, tu ne veux pas aller, les frères Jacques sur Europe 1, Franck.
Alors nous en étions, nous parlions de ces Basques et qui peu à peu vont voir se raréfier le cheptel, évidemment. Hein. Traqués par d'impitoyables chasseurs, les baleines remontaient sans cesse plus avant vers le nord. Le pôle semblait les attirer comme un aimant. On dut les poursuivre au milieu des icebergs dans un décor grandiose et terrifiant, nous dit Jean Mabir dans un de ses vieux articles, vous savez, ces vieux articles qu'on trouvait dans les revues des années 50. Les mers glaciales allaient ensuite connaître la grande aventure des explorateurs polaires, la recherche des mystérieux passages au nord-est et au nord-ouest, évidemment, qui devaient permettre de rejoindre le Pacifique Nord, devint une véritable hantise. De plus en plus, on vit des navires au Groenland comme au Spitzberg. Là, dans ce passage désolé et tragique, la réserve des baleines semblait inépuisable. Bloquée par la banquise, il n'était pas possible aux cétacés d'aller plus loin vers le nord. Ils étaient pris au piège, acculés à une lutte à mort. Il y a donc cette espèce de mer vers de déplacement, de déportement de la chasse à la baleine vers le nord. Et là, les maîtres, ce sont les Anglais, les Hollandais?
Oui, alors deux choses. Il y a un déplacement, mais il y a depuis toujours eu des migrations de baleines hein, entre le nord et les tropiques. Maintenant donc, les Anglais et les Néerlandais. Ces gens, à l'époque de la Renaissance, ont conscience que le monde maritime, va être vraiment ce qui sera le plus important pour l'avenir. Il faut avoir la maîtrise des mers. La baleine, l'avantage que ça, c'est que c'est une chasse dure, c'est une chasse lointaine, qui apporte de grandes richesses. L'huile est très précieuse, donc on va traquer la baleine. Mais il faut apprendre le métier. À l'époque, ils n'en connaissent rien. Alors, il paye les Basques.
Les fameux marins de Saint-Jean-de-Luz, comme on disait.
Les fameux Basques qui donc de Saint-Jean-de-Luz, qui au XIIe siècle sont arrivés à leur maîtrise absolue, puis ensuite ils sont devenus plus nombreux, et là ils se sont vendus à prix d'or. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de condamner eux-mêmes le royaume de France, parce qu'une fois que les Néerlandais et les Anglais ont su chasser la baleine, ils ont décidé que sur l'eau il y aurait un monopole, et que le malheureux Français qui prétendrait traquer la baleine, eh ben on le coulerait tout simplement, et éventuellement pendrait l'équipe. Enfin, ça, c'est du détail.
Ce qui veut dire qu'il n'y a plus de baleiniers français en dehors de ces marins basques qui embarquent sur des équipages étrangers, en fait, c'est ça ?
D'autant plus que très rapidement, les Basques ayant appris le métier à des gens qui étaient d'excellents élèves, il n'y avait même plus besoin de Basques. On a donc oublié la baleine.
Les Vikings avaient déjà été de bons baleiniers, hein, faut le dire.
Absolument.
Ils avaient apporté cette tradition jusqu'en Normandie, d'ailleurs. Hein, ce qui explique que du Havre partaient aussi des baleiniers, bien sûr.
C'est pas évident qu'il y ait une corrélation par la suite, mais c'est très vraisemblable en tout cas. En tout cas, la tradition de l'embarcation légère qui a causé sur les plages, ce sont bel et bien les Vikings qui l'apportaient en Normandie. Ça, c'est
alors,
sûr.
Nous l'avons dit tout à l'heure, Louis XVI a essayé à un moment de relancer un peu les choses.
Oui, alors on le trouve de façon, d'une part, dans les ordres à La Pérouse. On demande à La Pérouse de s'enquérir du côté de l'Amérique du Nord. On croit savoir que, c'est à vérifier, il faut y aller, premier point. Et puis, deuxième point, Louis XVI invite, au Havre, précisément, des familles américaines de Nantucket et de New Bedford pour apprendre aux Français à traquer. Le père Winslow de la chanson tout à l'heure, c'était le premier armateur français de baleiniers.
Ouais.
Sur ce, arrive la Révolution. On passe à autre chose, et puis ensuite il y aura la Restauration, où le frère que vous dites, Louis XVIII, qui n'est pas le frère.
C'est le frère de Louis XVI, oui, bien sûr, qui est monté sur le trône en 1814.
Absolument, le frère,
puis remonté en 1815.
Reprend la tradition, et donc on relance la chasse à la baleine.
Et oui, à partir de 1817-20, là.
Dès 17, c'est parti, et ça va durer jusqu'au début du Second Empire.
C'est-à-dire que sous le Second Empire, on chasse le début.
Oui.
Parce que vous avez, parmi les magnifiques textes qui sont dans ce recueil, il y a un journal de bord qui a particulièrement retenu mon attention. C'est le journal de bord de Charles Frouin, qui se trouvait être chirurgien à bord du baleinier l'Espadon. Et son voyage, lui, c'est au début du Second Empire. Oui. C'est en 1852-1856. On va y venir plus en détail, si vous voulez, dans un instant.
Le récit de Franck Ferrand.
Avec un récit de Franck issu maintenant sur Europe 1, un médecin à bord d'un baleinier.
Et oui, on est donc au tout début du Second Empire. D'ailleurs, pour être tout à fait précis, le Second Empire n'a même pas encore été proclamé. Au moment où il s'embarque, il s'appelle Charles Frouin, ce médecin chirurgien qui va s'embarquer. Alors, pourquoi s'embarque-t-il ? On va voir ça peut-être plus en détail tout à l'heure avec Dominique Lebrun, mais c'est parce qu'il a besoin d'argent pour monter son propre cabinet. Et que, évidemment, ses expéditions sur les baleiniers sont particulièrement bien payés. Alors, jusqu'à la fin de son journal, Frouin d'ailleurs maintient le suspense en quelque sorte. On ne sait pas s'il va gagner assez d'argent pour aller jusqu'au bout, s'il va être obligé de se relancer dans d'autres aventures par la suite. Alors, il y a dans ce texte des moments extraordinaires qu'il faut déguster comme de véritables témoignages. Tout ça est pris sur le vif puisqu'il s'agit d'un journal qui a été sans doute réécrit, évidemment, comme l'explique Dominique Lebrun, mais réécrit à partir de notes prises et datées au jour le jour pendant cette expédition extraordinaire. On part en quelque sorte le début, c'est le départ du navire le mercredi 15 mars 1852. On part donc du Havre et puis on va faire route peu à peu. Il y a cet épisode magnifique où Frouin raconte le passage de l'Équateur, hein, évidemment, avec toutes les réjouissances qu'on pouvait à l'époque faire à bord. On appelait ça le passage de la ligne et en quelque sorte on bizutait ce dont c'était le premier passage. Et puis la découverte d'un certain nombre de régions, d'habitants, de coutumes tout à fait nouvelles. Il ne faut pas oublier qu'on est dans la tradition de ces récits du 19e siècle. C'était voyager dans un fauteuil, le concept, vous savez, c'est-à-dire que tous ces aventuriers, tous ces grands voyageurs, tous ces explorateurs de l'extrême, à une époque où n'existait évidemment ni le cinéma ni la télévision, racontaient dans le détail leurs propres aventures pour donner des frissons aux bourgeois qui, tranquillement, à côté de sa cheminée, pouvaient comme ça découvrir le monde. Et on est tout à fait dans cet esprit-là. Alors, il y a des moments extraordinaires. Heureusement, écrit Frouin, le harponneur veillait et au moment où elle rondissait pour sonder, parce que vous savez qu'au moment où la baleine va sonder, c'est-à-dire va plonger en profondeur, effectivement, Elle arrondit le dos, donc il y a tout un vocabulaire spécifique. Le harponneur lui enfonça, dit-il, son harpon dans le dos jusqu'à la douille. La baleine, se sentant blessée, donna un coup de queue terrible et disparut entre deux eaux, entraînant avec une étourdissante rapidité la frêle embarcation qui semblait 10 fois par minute sur le point d'être engloutie. Ce qui prend ici tant de temps à raconter fut rapide comme l'éclair, et moi, debout sur la dunette du navire, je jouissais fort à mon aise d'un spectacle dont peu de personnes soupçonnent la grandeur. Il y a dans ce texte, comme dans la plupart des textes qui figurent du reste dans ce beau recueil de la collection Omnibus, qui s'appelle tout simplement « Les baleiniers, témoignages », il y a une sorte de naïveté charmante. On a l'impression que ceux qui racontent les exploits des baleiniers, de ces marins intrépides, sont en même temps les premiers à y applaudir. Ce sont des spectateurs au sens propre. Je vous cite un extrait de ce journal. Alors, on est beaucoup plus loin. Vous avez vu qu'ils sont partis en mars. Là, on est arrivé au mois d'août et on est déjà dans les mers australes. Dans l'après-midi, écrit notre médecin, une gamme de baleines s'est levée tout à coup sous le bout du capitaine qui a failli être chaviré. Pendant un instant, les baleines ont entouré la pirogue à la toucher, de sorte qu'on eût pu choisir et amarrer à la main. Mais il n'y fallait pas songer, c'eût été s'exposer à être absolument anéanti. Une demi-heure après, le lieutenant les a accostés et eût certainement amarré s'il n'avait fait scier beaucoup trop loin, de sorte que son harponneur a jeté 2 fois dans l'eau. Bien que ce soit un homme adroit et extrêmement fort, je ne puis pas rester spectateur impassible de choses semblables. Aussi suis-je maintenant malade de dépit et de colère rentrée. Mais il ajoute, vent du sud, faible brise, temps assez doux.
Pour retrouver ma douce amie au Méboué, oh là, oh là là là, pique la baleine, joli baleinier, pique la baleine, je veux naviguer. Aux 1000 mers j'ai traversé au Méboué, oh là, oh là là là, pique la baleine, joli baleinier, pique la baleine, je veux naviguer.
Pique la baleine, extrait d'un chant traditionnel marin sur Europe 1, Franck.
Alors, évidemment, ce qui est très intéressant aussi dans ce journal de bord, c'est de se rendre compte qu'il y a des journées, qu'il y a des semaines entières sans qu'on rencontre la moindre baleine. Et puis alors, soudain, ils arrivent au milieu d'un banc, en quelque sorte, enfin d'une famille de baleines, comme nous dirions aujourd'hui, une gamme, pour employer le terme consacré. Et alors là, au contraire, les flots sont complètement écumant de ces monstres marins qui surgissent dans tous les sens. On est quand même au milieu du 19e siècle, Dominique Lebrun, et on est dans une époque où la baleine ne fait plus aussi peur. Ce qui fait peur, évidemment, c'est le danger. On est tout à fait conscient du risque qui est pris par les marins. Mais à côté de cela, la dimension monstrueuse du cétacé a disparu, s'est perdue dans les limbes d'une tradition qui, évidemment, n'est plus. Au 19e siècle, on sait qu'on a affaire à un grand mammifère relativement pacifique et que ce qui peut arriver de pire, c'est d'être renversé ou abattu d'un coup de queue, en quelque sorte.
En quelque sorte.
On n'a plus cette terreur de la baleine.
De la baleine reste le cachalot.
Alors voilà.
Or, le problème du cachalot, c'est que son huile est infiniment meilleure et plus coûteuse que celle de la baleine. C'est aussi dans le cachalot qu'on trouve le spermaceti, qui est une matière grasse très précieuse, et éventuellement le fameux ambre gris. Donc, pour un baleinier digne de ce nom, la baleine, à la limite, sera un menu fretin. Si on trouve que de la baleine, on fera de la baleine. Mais s'il y a du cachalot, ça c'est une autre histoire.
Or,
mais là, c'est dangereux.
Or, le cachalot, c'est particulièrement dangereux. L'animal peut se montrer d'une grande violence, en vérité.
Une grande intelligence.
Et donc intelligence.
Double intelligence, en plus.
Oui.
Intelligence individuelle, ça aboutira à l'affaire de l'Essex Moby Dick, donc le cachalot qui venge le troupeau et qui coule le navire. Et puis pire, intelligence de groupe. C'est-à-dire des stratégies pour se protéger, pour s'éviter, voire pour attaquer. Et là, se naissent des légendes. Et Moby Dick en est la plus connue, mais partout, il y avait des cachalots qui étaient connus. On connaissait le nom de harpons qui étaient plantés dans leur corps, on connaissait leur silhouette. Et cela, ça faisait peur.
Le premier cachalot caché... chassé, le premier cachalot chassé, c'est en 1712.
C'est en 1712 que cet événement soit resté dans la chronique de New Bedford de Nantucket, je ne sais plus, je crois que c'est à Nantucket, qu'importe, montre à quel point ce geste osé attaquer le cachalot avait été une véritable performance. On se souvient encore du nom du baleinier qui l'a fait. Et la chance, entre guillemets, c'est qu'il ait réussi. Sans quoi, je pense qu'on aurait attendu longtemps avant de continuer à oser le faire.
D'autant plus que la technique, elle, n'est pas différente. C'est exactement la même technique qu'avec une baleine franche.
Strictement la même, sauf que la baleine a toujours été passive. Dans le pire des cas, elle essaie de s'éloigner. Le cachalot, lui, il esquive.
Il attaque.
Ou il attaque.
Oui. Et quand il attaque, il a une gueule grande ouverte.
Hein, alors, il a la gueule grande ouverte s'il s'agit de manger une baleinière, qu'il croque comme ça. Mais s'il s'agit de vouloir couler un navire, là, il charge carrément droit devant, et en deux coups, c'est fait.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Nous en parlions tout à l'heure sur Europe 1. Voici un extrait de Moby Dick, le film de John Huston, d'après le roman d'Herman Melville avec le très beau Gregory Peck.
Et alors justement, nous parlions de l'origine de ce texte, hein, de ce merveilleux roman de Melville. Il y a eu un vrai fait divers, l'affaire de l'Essex, c'était en 1820, et vous présentez, c'est le premier des textes de votre recueil, Dominique Lebrun, vous présentez la traduction du témoignage d'Owen Chase, qui était le premier maître à bord de l'Essex, et donc un des cinq survivants seulement de cette affaire, il faut la raconter. Hein, d'ailleurs,
de l'ensemble de l'équipage, c'est une traduction que j'ai assurée moi-même, dont je suis très fier, parce que c'est un Américain assez étonnant de cette époque, où se mélangent les considérations religieuses et technique. C'est un double vocabulaire, c'est merveilleux. Alors l'histoire est folle, effectivement. Donc le troupeau de cachalots est repéré, on met les baleinières à l'eau, on les traque, et du troupeau s'éloigne un animal qui fait un grand rond pour prendre de l'élan et qui tape une première fois les sexes sur l'avant. Les personnes qui sont à bord sont complètement abasourdies. Le cachalot fait un deuxième tour, retape au même endroit, et là, les mâts commencent à vaciller, le bateau commence instantanément à couler parce qu'il a commencé à faire l'eau. Et une heure plus tard,
de toutes parts,
il est démantibulé.
C'est ça, oui.
Et à ce moment-là, les baleinières arrivent, se trouvent devant cette épave entre deux eaux, et pendant 48 heures, personne ne pourra croire ce qui leur arrive. C'est la première fois que le Léviathan, le monstre des profondeurs, s'est vengé. Est-ce que ça veut dire qu'on
Non, pas sur un canot cette fois. Hein.
Non, sur le navire. Et puis, est-ce que ça veut dire qu'on aurait enfreint une loi divine? Jamais on n'a vu une pareille vengeance. Donc, il va leur falloir un temps considérable pour comprendre que leur seule solution, c'est de se mettre aux avirons et à la voile pour essayer de rejoindre une île, qui sera peut-être l'île de Pâques. En réalité, ils n'y arriveront jamais à cause des vents qui seront contraires. Et ils se retrouveront, mais à 5 seulement, après avoir séjourné sur une petite île, quelque part du côté de l'Amérique du Sud.
On s'en rend compte dans le Moby Dick de Melville, la religion est très présente hein, chez les chasseurs américains. Il faut dire un mot de cette chasse à la baleine américaine, en fait.
Oui, parce que qui lance la chasse à la baleine? Ce sont les descendants des Pilgrim Fathers.
Et c'est ça.
Qui sont arrivés donc au Cap Cod, une région où les baleines sont très nombreuses, et les Maoris aussi, d'ailleurs, tout le nom du Cap. Et c'est là où ils vont pouvoir, dès tout de suite, mettre à profit l'existence de ces baleines pour récupérer une chose hyper précieuse qu'est la matière grasse. C'est très 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 important. Et puis ensuite, quand le monde va se moderniser très très vite, pour éclairer les villes, les lampadaires, ça fonctionnera à quoi? À l'huile de baleine. Les phares, les lampes des phares, à l'huile de baleine.
Il en faut donc des quantités vertigineuses.
Énorme. Donc des baleiniers qui ramènent des tonnes et des tonnes et des tonnes, il n'y en a jamais assez.
Il faut dire que toutes ces baleines, et notamment dans le Pacifique, et surtout quand on va descendre dans les mers australes, toutes ces baleines, elles n'avaient quasiment jamais été chassées, ou alors d'une façon extrêmement artisanale, ce qui fait qu'elles pullulaient à l'époque. Ça nous paraît, il faut se remettre dans ce contexte, parce que nous, aujourd'hui, la baleine est devenue un animal d'une rareté. Lorsqu'une baleine est signalée, ça fait tout de suite un événement. À l'époque, on en a partout des baleines, hein. C'est impressionnant.
Alors, non seulement on en a partout, mais dans un duel, pour employer le terme que vous avez utilisé tout à l'heure, dans le duel entre la baleinière et la baleine, il n'est pas du tout évident que la baleinière va gagner à tous les coups. Et avec le cachalot, encore moins. Donc l'idée que l'être humain puisse exterminer ces espèces, ça paraît absolument impensable. C'est seulement en 1913 qu'on aura le premier cri d'alarme qui vient du commandant Charcot. Mais en 1913, ça fait déjà quelque chose comme 50 ans qu'on a créé le baleinier avec le canon lance-harpon et l'explosive. Voilà. En 50 ans, déjà, Charcot, qui a pourtant des moyens très limités de chiffrer, sait que c'est le début de la fin.
Mais on a complètement, pas exterminé, mais en tout cas considérablement réduit.
Pratiquement
exterminé.
Il y a des espèces qui existent, qui n'ont plus aucune chance de se reproduire. Oui, c'est nombreuses.
La baleine franche flottait, c'est ça, hein. La baleine bleue aussi.
Absolument, la bleue, oui, notamment. Oui.
Alors, ces baleines qui flottent, évidemment, c'est dommage parce que ce sont parmi les plus beaux représentants de l'espèce. Et évidemment, à l'époque, pour les baleiniers, c'était du pain béni.
C'était du pain béni. Et puis, ces gens étaient quand même, je pense, aussi sensibles à l'esthétique. Et ça devait leur faire quelque chose quand même. Même si c'était le Léviathan, le monstre, le diable, c'est la fascination du diable, c'est vrai.
Alors les Américains vont se mettre à chasser au large grâce à leurs grands navires suréquipés dont vous nous avez parlé. Hein.
Alors en fait, ce sont les Norvégiens qui les premiers vont créer le baleinier à vapeur. Et alors c'est assez amusant parce que ce bateau va s'appeler Spes et Fides, l'espoir et la foi. Et l'inventeur du harpon à tête explosive est un pasteur. C'est assez amusant. Et ça va changer complètement parce que, un, le bateau est motorisé. Il peut donc suivre les troupeaux de baleines, quel que soit le vent, évidemment, alors qu'autrefois, s'il n'y avait pas un vent de tempête, le baleinier ne pouvait pas suivre. Et puis trois, surtout, on chasse depuis le navire lui-même et l'animal n'a aucune chance. Oui. Aucune.
Et on chasse longtemps. C'est ça que je veux dire. Hein. Ce sont de grandes...
Et ensuite, les baleiniers deviennent nombreux. Et non seulement il y a donc les Américains, les Norvégiens, les Anglais, les Français n'en auront pas, je ne crois pas, les Japonais par la suite, et puis les Islandais considérablement, jusqu'à ce qu'ils renoncent tous, sauf deux pays, qui sont le Japon et qui sont la Norvège.
Oui. Pourquoi ces deux pays d'ailleurs résistent-ils à l'interdiction universelle de chasse à la baleine ? Le Japon, on peut se faire une idée parce qu'il y a des traditions extrêmement ancrées et qu'il est quasiment impossible d'aller contre les traditions japonaises. La Norvège, c'est presque plus surprenant tout de même.
Peut-être que c'est une des dernières traditions à laquelle la Norvège est très attachée, mais je crois à ça.
Est-ce qu'aujourd'hui, le prélèvement de ces pays sur le cheptel est encore significatif? Est-ce qu'il est dangereux?
Oui, puisqu'il crée des oppositions monstrueuses à la part de Greenpeace et autres, et des affrontements violents. Et je crois que c'est un combat pour la fin, parce qu'elles vont disparaître, c'est sûr.
Oui, c'est assez incroyable. Et j'allais dire, personne ne fait rien. Si, tout le monde fait quelque chose.
Si, tout le monde fait.
Sauf les Norvégiens et les Japonais. Hein. Parfois, l'histoire, moi qui l'aime tant, cette histoire, et qui chérit tant les traditions, parfois on a envie de dire quand même qu'il faudrait les abandonner et tourner la page.
Nous nous intéressons aujourd'hui sur Europe 1 aux chasseurs de baleines, un sujet qui fait vivement réagir nos auditeurs, Franck.
Oui, alors il y a beaucoup de messages, je ne peux pas tous les lire. Frédéric nous dit que lors d'une croisière en voilier vers les Baléares, il a été accompagné par trois rorquals, dont un jeune, pendant plusieurs dizaines de minutes. Émotion extraordinaire, aucune peur, mais émerveillement, nous dit-il, les baleiniers n'avaient vraiment pas de mal à les trouver. C'est vrai que si ça se passait comme ça, effectivement, c'est assez étrange, hein, d'ailleurs, la familiarité que manifestent ces grands animaux à l'égard de l'homme et qui, évidemment, était leur principal ennemi. J'ai eu le grand bonheur de voir au Québec, non loin de Tadoussac, une colonie de belugas défilant en plein milieu du Saint-Laurent, nous dit Laure. J'ai vu ça aussi, et des baleines à Tadoussac. C'est vrai que ce sont des expériences merveilleuses. Et Frédéric nous dit, il faut lire le livre de Nathaniel Philbrick, La véritable histoire de Moby Dick, donc précisément sur ce fait divers dont on parlait.
C'est l'adaptation de l'affaire de l'Essex. Quant
Exactement.
Au témoignage en Méditerranée, je l'ai vécu moi-même. Ça fait très très drôle de voir de chaque côté de son voilier qui peut faire 12-13 mètres un animal plus grand encore.
Et qui a l'air parfaitement placide. Hein,
c'est placide, oui. Mais on a vraiment envie qu'il reste placide.
Ouais, c'est ça.
C'est préférable.
Petit.
Alors, il faut qu'on détaille un peu les magnifiques témoignages qui émaillent votre ouvrage. Alors d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que, on l'a compris, l'huile de baleine était la principale motivation pour cette chasse. Et qu'à partir de 1830, on découvre l'huile de colza. On va bientôt aussi découvrir l'huile de roche, hein, c'est-à-dire le pétrole. Et que ces autres autres huiles sont beaucoup plus faciles à se procurer, moins coûteuses et moins, et en plus elles font moins de
fumée. Et puis c'est vrai que traquer le colza, c'est quand même moins dangereux que le cachalot. Ça, ouais, on dira ça. Jamais assez. Et le pétrole, ben ce sera la fin de tout, effectivement.
Alors il faut parler par exemple, parce que malgré ces découvertes, on continue donc à chasser la baleine, en tout cas en France, jusque, vous l'avez dit, au milieu des années 1850. On a ce témoignage extraordinaire de Félix Ménard. Ça, c'est peut-être. On a parlé tout à l'heure, on a dit un mot tout à l'heure de Charles Frouin, mais on n'a pas parlé de Félix Ménard.
Alors, Félix Ménard a une dimension littéraire telle que pendant longtemps, on a pensé que c'était un texte d'Alexandre Dumas. Que Alexandre Dumas était aussi éditeur et avait un talent certain à écrire des préfaces qui pouvaient laisser entendre qu'il disait que c'était quelqu'un d'autre qui l'avait écrit, mais que dans le fond, c'était peut-être bien lui. Et donc, j'ai mené enquête et j'ai retrouvé dans les ouvrages récapitulatifs des flottes de l'époque. Non, pas de problème. Ce chirurgien a bien existé, son navire aussi. Et son récit est extraordinaire parce qu'il commence non pas par un récit de traque, mais par le récit d'une exécution capitale en Nouvelle-Zélande.
Oui, c'est
une pendaison. Et là, on entre en fait dans la tradition du récit de voyage extraordinairement exotique. Les analyses qu'il fait par la suite, d'ailleurs des populations maoris et autres qu'il rencontre dans les chasse autour des îles, c'est extraordinaire, c'est les débuts de l'ethnographie.
Est-ce que tous ces textes font partie d'un véritable genre littéraire, en quelque sorte? Est-ce qu'il y a un genre littéraire de la pêche à la baleine, comme on disait à l'époque?
En revanche, je dirais qu'il a dû exister, là on en a 3 ou 4 exemplaires, c'est le genre du récit du médecin embarqué, homme cultivé et témoin de quelque chose d'exceptionnel, qu'il raconte, c'est le premier point, genre littéraire 2, tous les ingrédients du roman d'aventurissant, les lieux exotiques, les gens de population extrêmement mélangée et des événements qui dépassent entendement.
Ce qui est amusant, c'est de voir à quel point cette chasse à la baleine stimule l'imagination des plus grands auteurs. Vous avez cité tout à l'heure Alexandre Dumas et il faut citer bien sûr Sir Arthur Conan Doyle, puisque c'est lui qui clôt votre ouvrage. Et comme par hasard, Dumas et Conan Doyle, deux personnages qui, on va dire avec Jules Verne, sont allés à la recherche de l'approbation de leurs contemporains, en quelque sorte, qui cherchent à ébahir, à surprendre, à émouvoir le lecteur. C'est exactement ce que permet de raconter la chasse à la baleine.
Oui, le miracle est que Conan Doyle, si ce qu'il nous raconte est vrai, se trouvant donc un jour peinant sur ses cours en fac de médecine, se voit abordé par un camarade qui lui dit « Je devais embarquer sur un baleinier, j'ai tout l'équipement, finalement j'y vais pas, vas-y à ma place », et il y va. Ça nous a valu ce texte qu'il écrit beaucoup plus tard, d'ailleurs. Je crois qu'il l'a écrit dans les années 1920 pour une expérience qui se passe à l'extrême.
40 ans plus tôt, oui.
40 ans plus tôt, oui. Et qui est déjà la fin de la chasse à la voile. C'est en bateau et déjà, il marche voile et vapeur. Mais, en revanche, tout le fond, toute la traque, l'ambiance, presque l'odeur du dépeçage, on y est complètement.
Ouais, c'est ça.
Et là, le talent du récit et du suspense est poussé à son comble.
Il faut dire que c'est l'aventure totale, c'est le risque permanent, c'est la fascination devant la splendeur de ces grands animaux, ouais. Et c'est le dégoût devant la mer de sang, littéralement. Donc il y a tous les ingrédients d'un grand récit, évidemment, hein, dans ces chasses à la baleine.
C'est apocalyptique, vous voulez
c'est
dire
vrai,
c'est apocalyptique
ça. On a vraiment on est sur un gouffre de sang, en quelque sorte.
On aurait voulu inventer en fiction un animal grand, des circonstances, des voyages autour du monde. Un capitaine de baleinier, un jour sur sa table à cartes, il disait « Je suis ici à Hawaï, je pense qu'elles sont en Antarctique, allons en Antarctique ».
Et ça n'est pas le moindre d'ailleurs, que ce soit l'Arctique, l'Antarctique ou l'Océanie, etc. Ce n'est pas le moindre des mérites de ces récits que de nous faire découvrir, de nous faire voyager. Hein, parce que ce qui est très intéressant, c'est que tous ces témoins prennent le temps quand même de nous décrire les paysages, de nous décrire les personnalités rencontrées, les habitudes, etc. On n'est pas seulement coincé sur le dos de la baleine, si
Mais
je peux dire.
Mais n'oubliez pas ce que vous disiez tout à l'heure, quelquefois pendant des jours et des semaines, voire des mois, on ne trouvait pas une bête à chasser.
Et c'est ça. Hein.
Et le chirurgien, finalement, on avait soit des morts, je pense, soit des petits bobos, mais des choses sérieuses à soigner, je pense qu'il y en avait très peu finalement. Donc il avait beaucoup de temps pour écrire.
Ouais, il y avait pour trouver les baleines, le seul moyen c'était d'avoir un guetteur au sommet du mât de vigie. Ça devait pas être toujours...
Ça, rien que d'y penser, ça me donne le mal de mer. Le ballon devait être de 20 ou 30 mètres quelquefois. Ça devait être absolument cauchemardesque.
C'était les mousses qu'on faisait monter parce qu'ils étaient moins lourds.
Non, chacun son tour. C'était obligatoire.
Et ça devait être, oui, ça devait être assez angoissant, effectivement. Bien sûr, avec le radar, ça c'est comme le remplacement du harpon par le canon, évidemment, c'est moins sportif.
Ce n'est plus ce que c'était.
Les baleiniers, témoignages 1820-1881, tout un ensemble de récits de ces chasses à la baleine présentées par Dominique Lebrun. C'est évidemment édité par Omnibus. Merci beaucoup, Dominique Lebrun. Je promettais du large, des embruns et de l'aventure à nos auditeurs. Je pense qu'on peut dire que nous les leur avons donné au cours de
Merci.
Cette édition.